Salut tout le monde, c'est Rich,
Raph,
Rod
et Robbie.
On est Détour et vous écoutez Nike Radio.
Retour à Prends ton gaz égal, Michel Tédalère avec vous en ce 7 avril. C'est maintenant l'heure de l'autre côté avec Gaston. Bonjour Gaston Côté.
Bonjour Michel Tédalère.
Comment vas-tu?
Ça va super bien, c'est une super de belle journée. Vraiment, c'est les petits oiseaux chantent, les bernaches sont arrivés chez nous. J'ai un couple de bernaches qui nichent pas loin. J'ai une petite île, moi je suis près de la rivière Beau-Rivage, puis il y a une petite île dans la rivière, puis là ils spotent leur place, puis là c'est les autres bernaches qui arrivent. Donc c'est ça, je suis allé prendre une marche tout à l'heure, là, puis c'est vraiment merveilleux. On a plein d'oiseaux encore qui commencent, qui s'en viennent, des canards, tout ça. Là, c'est vraiment merveilleux.
Ben, c'est vraiment le fun, ça. Wow. Hey, dis-moi, de quoi on se parle aujourd'hui?
On va parler d'intelligence artificielle, mais plus au niveau de l'éthique. J'ai trouvé un article super intéressant, comme toujours, dans la revue Québec Science de avril-mai 2019. Ça s'appelle, le titre de l'article, « Remettre l'intelligence artificielle dans le droit chemin ». Ici, on parle d'éthique. Ça a été écrit par Chloé Dioré de Périgny. L'éthique, c'est quoi? L'éthique, on confond souvent l'éthique avec la morale. En fait, c'est un peu la même chose, sauf que l'éthique, il y a un sens beaucoup plus, plus actif. C'est-à-dire, bon, je vais donner une définition que j'ai trouvée. L'éthique est une réflexion sur les valeurs qui orientent et motivent nos actions. Cette réflexion s'intéresse à nos rapports avec autrui. En général, et au niveau plus général, la réflexion éthique porte sur les conceptions du bien, du juste et de l'accomplissement humain. Ici, on parle un peu de morale, comme je viens de dire. Ici, aussi, l'éthique, dans une autre explication là, que j'ai trouvée, l'éthique regroupe un ensemble de règles qui se différencient et complètent les règles juridiques. Autrement dit, souvent, l'éthique va amener à faire des règles juridiques. Un exemple de ça, à une certaine époque, la cruauté envers les animaux, c'était vraiment plus au niveau éthique. Autrement dit, au niveau de la morale, jusqu'à quel point un animal est une propriété où on peut faire ce qu'on veut avec. Ça a évolué pour devenir une loi. Maintenant, un animal est considéré comme un être à part entière. Pas un être humain, mais un être qui a des droits. Et c'est encadré par des lois. Maintenant, ça s'appelle de la cruauté animale. Donc, si quelqu'un frappe un chien, ben, il peut être poursuivi. Alors qu'à une certaine époque, c'était pas le cas. Donc, on voit que l'éthique versus la morale, qui est un peu un vase communicant, amène à des conceptions qui sont plus, disons, sociétales par rapport à une législation. Donc, l'éthique est importante dans nos vies et parce que ça amène des règles qu'il faut observer éventuellement avec une législation. Si je reviens à l'intelligence artificielle, évidemment, on sait que l'intelligence artificielle règle de plus en plus nos vies. Et justement, il faut apprendre à encadrer tout ça. Quand je dis apprendre, il faut que les penseurs, les éthiciens qui étudient justement l'éthique à l'université, donc il y a plein de concepts qui étudient pour voir comment ça influence nos vies, pour vous donner un exemple de l'éthique, le rapport qu'on peut avoir avec l'éthique. Bon, prenons, je sais pas si tu te rappelles, en 2018, en janvier 2018 pour être plus précis, il y a eu un jeu, en fait, qui s'appelle Art Selfie de Google. Et c'est autrement dit, tu prenais un égo-portrait de toi-même, et là, Google te ramenait avec des sosies dans différentes peintures qu'il y avait à travers le monde, des peintures célèbres ou pas. Et autrement dit, il avait photographié les peintures en question. Et là, il faisait un match. Intelligence artificielle analysait tous les points. Et là, il te disait, hop, vois-tu, dans telle peinture, il y a telle sosie qui te ressemble. Évidemment, c'était très intéressant pour certains, mais par contre, là, ils se sont rendus compte à travers ça qu'il y avait des biais. Autrement dit, il n'y avait pas assez de peinture assez large pour vraiment catégoriser. Autrement dit, ça permettait... je m'exprime mal. Ce que je veux dire, c'est que certaines personnes se sont senties lésées. Bon, pour donner un exemple, évidemment, un noir qui envoyait sa photo à Google arrivait avec un esclave noir, parce que dans la peinture, souvent, les noirs étaient des esclaves. Ben là, c'était frustrant. Autrement dit, le ratio, le nombre de peintures n'était pas assez grand pour donner un portrait. Le mot est un peu un genou, mais un portrait juste de ce qu'est la représentation du noir à notre époque. Donc, il y a ce qu'on appelle un biais. Donc, au niveau de l'éthique, l'intelligence artificielle, c'est toujours basé sur un peu sur le passé. Donc, c'est pour ça que faut faire attention avec les données qu'on peut donner à différents comme Google, pour revenir à cet exemple-là, qui fait en sorte que c'est pas tout à fait, comment dire, éthique. Évidemment, je regarde. Bon, c'est ça. Est-ce que finalement la question se pose, est-ce que c'est misogyne ou raciste? C'est oui et non, c'est-à-dire que c'est les données qu'on donne à l'intelligence artificielle pour faire l'analyse. Si en partant, les données sont biaisées, faussées ou incomplètes, fait en sorte que le résultat va être évidemment faussé ou incomplet. Donc, autrement dit, c'est un petit peu comme une petite boîte noire qu'on met des données là-dedans et au bout de la ligne, ça va donner des décisions. On parle d'intelligence artificielle. Donc, les décisions vont être prises par l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'on va donner comme données là-dedans qu'on va mettre va faire en sorte que ça va donner des schémas qui vont être inéquitables. Incorrect. Là, on parlait de selfie, mais ça va beaucoup plus loin que ça par rapport à d'autres aspects de la vie. Donc, ça prend beaucoup de diversité. Beaucoup de diversité au niveau des données. Et ça, évidemment, il faut les collecter, ces données-là. Et c'est pas si simple que ça. Donc, il faut les numériser, les donner à l'ordinateur. Et il y a toujours le biais. Ah, oh, un petit message vient de rentrer. Il y a toujours le biais. C'est ça quand on est à distance. Oui. Il y a toujours le biais de celui qui met les données et qui va faire en sorte qu'au bout de la ligne, comme je disais, ça va provoquer même des injustices. Donc, pour donner un autre exemple d'algorithme qui est biaisé, supposons un instant que la ville de Montréal ou même de Québec décide de, OK, on va mettre un algorithme, on va faire un algorithme pour déterminer quel restaurant devrait se soumettre à un contrôle sanitaire. OK? On va faire ça par l'intelligence artificielle. Bon, ils vont s'y prendre comment? Ils vont prendre, à ce moment-là, toutes les plaintes qui sont rentrées. Donc, plus que tu as de plaintes, plus qu'il peut y avoir matière à analyser et de voir s'il y a un problème au niveau sanitaire. Mais, et là vient le biais, qui est-ce qui fait le plus de plaintes? Est-ce que c'est les gens pauvres qui vont chez McDonald's ou c'est les gens un peu plus riches qui vont dans des restaurants très haut cotés? Quand tu payes 150, 200 piastres pour un repas, tu t'attends à ce que ce soit top, tu sais, vraiment top, hein? Oui. Donc, forcément, si c'est pas ton goût, tu vas faire une plainte, juste pour améliorer les choses. Donc, il va y avoir plus de plaintes pour les restaurants qui sont plus haut de gamme. Ce qui fait en sorte que, au niveau éthique, si on revient toujours à l'éthique, ça veut dire que, est-ce que la santé des consommateurs moins fortunés pourrait en pâtir? Parce que les restaurants bas de gamme, moins de plaintes, donc moins d'inspections. Tu vois, où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est très biaisé, des fois, les données qu'on peut donner. Donc, il faut avoir à l'esprit que ce qu'on donne dans la machine pour la nourrir, si elle va partir de ça pour faire son analyse, pour faire qu'en bout de ligne, ben, il peut y avoir des choses qui sont pas correctes. C'est un principe qu'il faut faire très attention.
Oui, ben, puis c'est sûr que la programmation, elle se fait en fonction des gens qui vont s'asseoir là pour lui donner une mathématique d'éthique pour qu'il puisse faire ses analyses. Si moi, j'ai décidé, je donne un exemple, que la charia, c'est pas bon, mais qu'un autre peuple refait le même logiciel, mais qui décide que la charia est bon, l'ordinateur, quand il va venir pour décider si de faire telle ou telle action est valorisante ou pas, il donnera pas les mêmes points. Donc, ça dépend toujours aussi de qui fait l'entrée. C'est qui a la connaissance ultime, peu importe le sujet, là.
Effectivement, ça va juste que ça. C'est vraiment là-dedans que l'éthique prend plus son sens. C'est la collecte de données et la façon de donner ces données-là, comme tu viens de souligner, avec un exemple très précis, qui fait en sorte que d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une façon de penser à l'autre, l'éthique est différente. Et les analyses vont être différentes. C'est normal, c'est comme ça. Maintenant, pensons à la collecte de données. Chaque individu laisse des traces les traces numériques. Pensons, mettons, aux cartes de fidélité avec la SAQ, les commentaires qu'on peut faire sur Facebook, ou même simplement les recherches qu'on fait sur le moteur de recherche Google.
Ben oui.
Tout ça, ben oui, tout ça est comptabilisé et numérisé et analysé. Bon, tous les jeux qu'on peut avoir, là, mettons... dites-moi la couleur, votre couleur préférée ou et tout ça, et je vous dirai quel est votre profil. Tout ça, ce sont des, entre guillemets, quasiment des arnaques pour recueillir des données, compiler ces données-là, puis par la suite, évidemment, faire un portrait global de la société, les tendances, ces choses-là, et après ça, dans un algorithme, pour faire en sorte qu'il te fait des recherches, à un moment donné, c'est telle affaire, à un moment donné, pop, ça pop, voyons, Caroline, comment ça, non, ça me pop, et j'ai juste à peine pensé que oui, ce serait le fun d'avoir un nouveau spa ou telle affaire, puis ça me pop ça d'en face. Tu fais, ben voyons donc, comment ils ont pu savoir? C'est parce que tu as fait une recherche là, une recherche là, une recherche là, une recherche là, et tu étais peut-être rendu à prendre la décision par rapport à rechercher ce type de choses-là. Ça va loin, ça peut aider. C'est certain que tu dis, OK, c'est quoi le meilleur article qui me conviendrait pour ça? Et puis là, ça t'apparaît d'en face. Tu fais, ah bon, tu sais. ça va là. Et tout ça, ces données-là sont marchandisables. Autrement dit, tu n'as plus comme le contrôle de ça parce que c'est vendu d'une entreprise à l'autre. Un exemple de ça, très, très précis. En avril 2018, bon, les médias ont révélé que des renseignements personnels de 87 millions d'utilisateurs de Facebook avaient été exploités par la firme Cambridge Analytica. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, cette
Bien
espèce de...
Bien sûr, ça a tellement fait les nouvelles.
Exactement. Et ça l'a permis d'influencer les électeurs pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. Et qui est-ce qu'on a comme président des États-Unis dernièrement? Monsieur Trump. Autrement dit, cette analyse-là a permis de cibler exactement les tendances et de faire en sorte d'influencer l'électorat pour donner le résultat que ça donne. Donc, on peut voir que c'est vraiment, vraiment tendancieux et dangereux tout ça. Dangereux et aidant. Donc, faut trouver une façon de faire en sorte que on soit pas... on parle ici de codifier les contraintes éthiques dans les algorithmes. Là, c'est pas simple. Codifier les contraintes éthiques. Là, on parlait tantôt de l'exemple que tu as donné d'un peuple à l'autre, d'une région à l'autre, d'une façon de penser à l'autre. Comment tu fais pour codifier ça pour qu'il y ait une façon de, disons, générale qui soit éthique pour l'ensemble du monde entier? C'est pas simple. On parle de droits humains. Ben, les droits humains en Chine ne sont pas les mêmes que les nôtres.
Ben, c'est ça que j'exprimais un peu dans mon exemple tantôt. Là, je disais pas qu'un... selon le point de vue puis d'où qu'on vient, la visibilité de ça est pas... a pas les mêmes valeurs, mais tu sais, pour un peuple, c'est acceptable, pour l'autre, ça ne l'est pas. Donc, puis là, j'ai pris un exemple assez critique parce qu'il y a une différenciation complètement, c'est tout un ou tout l'autre. Là. Je voulais vraiment aller du blanc au noir à travers le spectrum, mais dans les pays où il y a ça, eux autres, ils vivent comme ça, ça fait partie de leur quotidien.
Oui, et même si nous, personnellement, on se dit, OK, on va mettre des règles par rapport à nos principes de vie, par rapport au respect de la personne, et ainsi de suite. Et là, on va dire, OK, ils gagnent. Google, Apple, Facebook, Amazon, tout ça, nommez-les. Ces gens-là, on va dire, OK, voici les règles éthiques que nous, on veut comme société que vous appliquiez dans vos algorithmes. Est-ce que vont avoir une obligation de respecter ces règles-là. Et même s'ils ont l'obligation de les respecter, jusqu'à quel point ils vont les respecter? Ça aussi, c'est un autre enjeu qui est important à avoir à l'esprit.
Oui.
C'est pas
faut
si simple
prouver,
que ça.
Hein? Tiens, je veux dire, vous respectez pas les règles éthiques, prouve-le.
oui, ça, c'est encore là, c'est une autre histoire. Là. On s'en va dans le débat juridique, prouver quelque chose qui est très, très difficile. Par contre, au niveau européen, les territoires européens, eux autres, en 2016, le Parlement européen a adopté un règlement sur la protection des données personnelles. Là, on va vers quelque chose qui pourrait aider. C'est-à-dire que tout individu sur le territoire européen peut désormais avoir accès à son dossier de renseignements personnels, les modifier, les renseignements personnels, et s'opposer à leur utilisation. Là, on vient de marquer quelque chose. Là, ça se passe en Europe. La Californie aussi, lui emboîte le pas bientôt. Là, c'est en 2020 qu'ils vont vraiment faire en sorte que ça va être applicable aussi en Californie. Pour ce qui est de nous, bon, on n'en est pas encore tout à fait là, mais on peut penser que souvent, la Californie nous influence beaucoup, nous, ici au Québec. Donc, c'est sûrement dans l'air du temps. On va peut-être s'y conformer, nous aussi, arriver avec quelque chose qui va encadrer un peu plus les choses, faire en sorte que, un peu comme notre dossier de crédit, on peut voir là-dedans si correct ou pas, ou demander je trouve ça logique de demander des modifications si on juge que c'est pas correct, ou aller comme le Parlement européen, demander si les gens sont pas d'accord à ce que les informations personnelles soient diffusées, ben de le faire. Tu sais, moi, je trouve que ce serait un gros plus pour nous.
Absolument. Ben au Canada, nous, l'avancée qu'on a fait, c'est au niveau des sites internet. Là, c'est le GPRD, je crois que ça s'appelle pour l'Union européenne. Mais pour le Canada, je crois que c'est C21 ou C31. Là, je me souviens plus le numéro exact. Là, où ce qu'on doit demander la permission d'utilisation, on doit la faire confirmer maintenant au niveau de d'utilisation pour site internet. Mais c'est pas international. Là, ça s'applique juste pour les sites canadiens.
Bon, d'accord, c'est déjà ça, tu sais. Si on fait ça, nous, le pays, l'Europe le fait, ailleurs ils le font, ben, à un moment donné, on va arriver avec une éthique mondiale qui va, évidemment, avant de faire quelque chose, ça regarde ce qui a été fait ailleurs. Si ça fonctionne, on l'applique, mais on le modifie un peu. Mais en règle générale, si tout le monde y va avec cette petite éthique quelque part, ben, à un moment donné, on va peut-être se rejoindre quelque part. D'ailleurs, il y a eu une déclaration de Montréal les éthiciens se sont réunis à Montréal et ils appellent ça la Déclaration de Montréal et ils ont établi 10 principes qui vont encadrer le développement responsable de l'intelligence artificielle. Entre autres, là-dedans, on stipule que la vie privée de chacun doit être protégée de l'intrusion des systèmes d'intelligence artificielle et que les personnes engagées dans leur développement doivent anticiper les éventuelles conséquences néfastes. Donc, c'est un principe. Il y a d'autres règles, mais ces deux principes-là vont faire en sorte que ça va nous aiguiller vers quelque chose qui va être, en principe, plus éthique. Et évidemment, dans le but de que l'intelligence artificielle profite à tous, les chercheurs de tous les domaines devraient travailler conjointement afin de brosser un tableau réel de ces enjeux. Là, c'est des vœux pieux, là. On veut que tout le monde travaille ensemble, c'est normal, pour arriver à une espèce de consensus pour qu'évidemment, ça profite à tout le monde. Ça profite à tout le monde, surtout aux entreprises, mais bon, on peut penser que l'être humain de base, comme le simple citoyen, puisse en profiter. C'est certain que oui, mais on peut penser que les entreprises beaucoup plus. Mais puis derrière ça, si on veut que les gens en profitent, il faut que ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Bon, pour te donner un exemple de ça, c'est où? À Toronto, si je m'abuse, en tout cas, il y a un endroit que je cherche dans mon... En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas si grave que ça, c'est ils ont décidé un endroit d'optimiser les horaires d'autobus scolaire, dans le but de sauver de l'argent, évidemment, mais sauf que ça n'a pas plu à tout le monde, parce que forcément, donc, il fallait changer pour ce qui est des parents, de changer leur emploi du temps pour s'adapter au nouvel horaire. Donc, c'est pas si simple que ça. Des fois, là, des fois, tu as la garderie à aller chercher le petit, donc tu vas aller chercher l'autobus scolaire pour l'autre, et le travail qui finit à telle heure, tu dis, bon, il y a le trafic. Donc, il y a plein de contraintes personnelles qui sont engagées là-dedans, qui fait que si eux, la commission scolaire, modifie les horaires d'autobus, ça te cause des problèmes et multiplié par 30 élèves dans une même classe, ben ça fait 30 problématiques différentes qui fait qu'il faut gérer ça. Donc, l'acceptabilité sociale, dans ce cas-là, ça n'a pas marché, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de revenir avant. Pourtant, la commission scolaire sauvait de l'argent et c'était optimisé. Donc, pour arriver à une acceptabilité sociale, il faut expliquer aux gens le principe et les critères qu'on emploie pour justifier ces transformations-là. C'est pas simple, mais si les choses sont bien expliquées, ça va aider. Parce que ce soit la plus belle chose possible, si on réussit pas à convaincre les gens, à leur faire comprendre le bien fondé de la chose, puis c'est fait vraiment par intelligence artificielle avec tous les critères d'éthique qu'on peut supposer, comme on parlait tantôt, ben ça marchera pas, parce qu'il y aura pas d'acceptabilité sociale. C'est hyper important que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y en est.
Ben, c'est maintenant, sûr qu'il n'existe jamais une solution qui est complètement universelle. Là. Il va toujours avoir un pourcentage de gens qui ne fitteront pas dans le moule, on va le dire comme ça. Mais en plus que parfois, elles sont même dures à convaincre, ou c'est ceux qui vont faire le plus de bruit qui va faire en sorte que des fois, il y a des changements qui se produisent, même si ça ne plaît pas à toute la population, juste parce qu'on ne veut plus entendre ce bruit-là.
Absolument. Et quand on parle d'éthique, il y a une réflexion, évidemment, qui doit être amorcée par rapport à, bon, est-ce que, bon, dans le cas d'une voiture autonome, bon, si une voiture autonome, pour une raison quelconque, a à prendre une décision, il y a un problème, est-ce que la voiture doit se diriger vers la mamie qui est toute seule sur le trottoir ou juste à côté une maman avec une poussette? C'est quoi l'enjeu éthique de l'intelligence artificielle va se poser la question? C'est une réflexion qu'on peut avoir. Mais en fait, dans l'article qui, justement, cet exemple-là est cité, que cette problématique d'éthique ou de réflexion n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est vrai, on peut se poser la question, mais dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'il y ait un système de freinage d'urgence qui va faire en sorte que la question se posera même pas. C'est vraiment au niveau éthique, on peut se poser la question comme ça, mais comme je viens de dire, c'est peut-être beaucoup mieux de mettre des freins ultra performants qui vont faire en sorte que la voiture va s'arrêter d'elle-même.
Oui, mais même si tu as le meilleur système de frein, là, on le sait, je veux dire, il y a une période de freinage, puis ça se peut que le système de détection, si l'événement arrive à la dernière minute, peu importe le système de freinage que tu vas inventer, ça n'arrêtera pas.
Oui, effectivement, mais on peut se poser la question, mais forcément, c'est certain qu'il y a une éthique à trouver peut-être là-dedans, qui on privilégie. Dans le cas de la COVID-19, justement, il y a une question éthique qui va se poser. Si on n'a pas assez de ventilateurs, comme on voit en Italie, si on n'a pas assez de médicaments pour soigner les personnes, et là on arrive à une personne de 70 ans, 80, 90, qui est malade, et une autre de 30 ans qui est aussi malade, à qui on va donner le médicament? La question éthique se pose, mais dans ce cas-ci, la réflexion pour moi, et je pense pour l'ensemble de la communauté scientifique, on va y aller vers le jeune qui a plus d'avenir que le vieux qui est en fin de vie. La question se pose, mais la réponse se trouve aussi facilement dans ce cas-ci. Dans le cas de la mamie et de la jeune, de la maman avec la poussette, encore là, c'est un peu le même dilemme qu'on peut trancher, disons, relativement facilement. Mais encore là, mettons, OK, un noir et un blanc sur le trottoir. Tu sais, on fait quoi, là?
Ah oui, c'est ça. Là, on avait pris des choix faciles, là, mais il y en a des beaucoup plus durs. Hein.
Effectivement. Et dans notre analyse aussi de la réflexion qu'on peut avoir par rapport à l'intelligence artificielle, jusqu'à quel point on peut dire « ça ne marche pas », là, on parle de voiture, mais on peut parler dans d'autres domaines, jusqu'à quel point on peut débrancher la machine carrément, tu sais? Et puis pour finir là-dessus un peu, je sais pas si tu te rappelles de l'Odyssée de l'espace.
Oui, absolument.
Le fameux Carl, je pense que c'est ça son nom, Carl, l'espèce de d'ordinateur, à un moment donné, dans la mission, tout ça, Carl en arrive à se dire, la mission, c'est plus important que la vie humaine. OK? Là, dans son rapport éthique, peut-être qu'il y avait un biais qui était pas vraiment bien programmé, mais lui a décidé que pour réussir la mission, il fallait éliminer les humains. Donc, il restait juste un astronaute. Lui, il se rend compte de ça. Et puis là, il décide de débrancher Carl. Et évidemment, c'est pas simple. Je pense que c'est pas grave, même si je brûle le punch, là, parce que c'est un film qui est assez vieux, pas des années 70. Mais lui, c'est ça, il décide de débrancher la machine. Et finalement, il s'expulse il prend un scaphandre autonome pour partir dans l'espace parce que c'est plus viable si Carl n'est plus là, il peut plus vivre dans le vaisseau spatial. Donc, il part à la dérive et tout ça. Donc, ça va assez loin, l'intelligence artificielle, par rapport au biais qu'on peut mettre et comment le résultat final, jusqu'à quel point on peut débrancher la machine et quelles sont les conséquences de débrancher la machine. C'est assez particulier. En tout cas, on verra avec l'avenir comment ça va se traduire tout ça. Mais moi, je trouve que c'est des réflexions assez intéressantes par rapport à l'avenir de l'homme versus l'intelligence artificielle.
Ben, d'une certaine façon, c'est un peu aussi ce qui a inspiré, d'une certaine façon, Terminator avec Skynet, qui lui était dit « il faut que je prenne le contrôle des humains ». On revient dans l'histoire de la matrice. Il y a eu beaucoup d'exploitation de l'éthique dans l'intelligence artificielle. C'est quand même extraordinaire ce que ça l'a amené comme inspiration.
Oui. Ben, moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je sais pas si toi, t'as des choses à rajouter, là. Moi, j'ai fait le tour, je pense.
Non, ben là, de toute façon, il va falloir arrêter là parce qu'on dépasse un petit peu notre temps. Mais wow, c'était quand même super intéressant comme sujet, Gaston. Gaston Côté, un gros merci encore pour cette belle recherche.
Ben, ça me fait plaisir.
Et voilà. Nous, on se reparle la semaine prochaine. Prends soin de toi.
Absolument. Salut, bye.
Bye. Vous êtes à Prends ton gaz égal. C'était Gaston Côté de l'autre côté avec Gaston. Et de l'autre côté de la pause, nous allons parler avec Christian Duval d'Automobile. Restez là.
168 heures de contenu par semaine. Des auditeurs partout dans le monde. NIKY Radio.